Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un accord de paix finalement trouvé entre l'Iran et les États-Unis. On vous le détaille dans ce journal. Le G7 débute à Évian aujourd'hui à la frontière suisse. De quoi chambouler le quotidien des habitants. RMC est sur place. Et puis nos toutes dernières infos sur la composition des Bleus, la veille de leur entrée en lice en Coupe du Monde face au Sénégal.
Plus de 3 mois et demi après le début de la guerre, un accord de paix enfin trouvé entre les États-Unis et l'Iran.
J'autorise la levée immédiate du blocus naval. Déclaration hier de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social qui confirme l'annonce du médiateur pakistanais. Romain Cluzel du service politique de RMC, vous êtes en plateau avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce que cet accord contient ?
Eh bien, les Iraniens et les Américains assurent qu'ils mettent fin à toutes les opérations militaires, y compris au Liban. Cet accord, il permet d'envisager la réouverture du détroit d'Hormuz fermé depuis le début du conflit le 28 février dernier. Un détroit essentiel pour l'économie iranienne et pour l'approvisionnement en pétrole d'une grande partie du monde. Le passage des bateaux reste à sécuriser, mais Donald Trump annonce d'ores et déjà une réouverture pleine du détroit, sans droit de passage. Sur son réseau social, il ajoute que le pétrole coule à flot avant même la signature de l'accord prévu vendredi. Selon l'agence de presse iranienne MER, les Américains ont accepté de dégeler jusqu'à 24 milliards de dollars d'avoir iranien. Mais plusieurs sujet reste toujours en suspens et désormais une période de négociation de 60 jours s'ouvre pour tenter de trouver un accord définitif. Téhéran réclame la levée de certaines sanctions internationales, mais c'est surtout le programme nucléaire iranien qui sera au cœur des discussions. Le président des États-Unis évoque un moratoire qui empêcherait l'enrichissement d'uranium par l'Iran pendant 15 à 20 ans.
Et vous l'évoquez, Romain, cet arrêt immédiat des opérations militaires, y compris au Liban. La question maintenant, c'est est-ce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va respecter lui aussi cet accord ? On a demandé à Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques.
Et si le sens global de l'histoire et si le mouvement est de parvenir à un accord pour l'intérêt des deux belligérants, mais également des pays de la région et de la communauté internationale, je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fasse déraper les choses. En tout cas, il est clair qu'il faudra que Donald Trump contienne son partenaire Benjamin Netanyahou, parce que les deux n'avaient pas du tout la même stratégie du côté de Benjamin Netanyahou. Cette obsession de la destruction de la République islamique et de ses proxys semble clairement montrer au bout de 100 jours que tout ça est impossible. Donc à un moment, comme dit le proverbe, il faut savoir terminer une guerre.
Et ne manquez pas à 7h40 sur RMC, le général Pelli se rendit. Que contient cet accord ? Qui a gagné ? Quelles conséquences pour nous ? Réponse donc à 7h40.
Un accord qui sera évidemment aussi au cœur des échanges au G7, où Donald Trump doit atterrir cet après-midi et s'entretenir avec Emmanuel Macron. Le sommet des puissances mondiales débute aujourd'hui à Évian, à la frontière suisse, jusqu'à mercredi. Évian, c'est moins de 10 000 habitants en temps normal. Alors vous l'imaginez, la commune est transformée. Le reportage de Rachel Sadodine, l'envoyé spécial sur place de RMC.
Sur les bords du lac, d'habitude noir de monde, les promeneurs sont rares, mais ils ont de la compagnie.
C'est un beau rassemblement d'hélicoptères. Il y a 2 de l'armée et puis 3 de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre patrouillent aussi en bateau sur le lac et ça n'arrange pas du tout Nadia.
Moi, je voulais me baigner parce qu'il fait chaud, mais les policiers nous ont dit qu'on n'avait pas le droit à la baignade.
La jeune fille de 14 ans suit à grosses gouttes sous sa casquette. Malgré tout, elle s'estime chanceuse. Sa sœur, en terminale au lycée, va devoir aller passer l'épreuve de philosophie du bac à Thonon-les-Bains ce matin dans un bus escorté par les forces de l'ordre car le périmètre est bouclé. Pour circuler, les riverains doivent présenter un laisser passer comme celui de Cédric.
Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, puis avec un QR code, quoi. Touche et contrôle, on est obligé de le montrer. On peut plus trop vivre.
Résultat, impossible pour les touristes d'entrer dans Évian. Les terrasses des cafés sont quasi vides. Seulement 3 personnes attablées au bistrot de Françoise.
Depuis 3 jours, c'est cata.
Et ça se ressent sur le chiffre d'affaires ?
Ah oui, bien sûr, bah oui. -50, -70%. Donc, on sait là qu'on est patron et qu'on n'a pas de salarié, quoi.
Optimiste, la restauratrice appelle les forces de l'ordre et les membres des délégations officielles à venir déjeuner chez elle pendant le G7.
Un sommet où sera aussi évoquée la guerre en Ukraine, alors que plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été bombardées cette nuit par la Russie. On compte au moins 9 morts ce matin à Kiev et à Kharkiv.
7h05 sur RMC, on parle maintenant de ce projet de loi pour durcir les sanctions contre les casseurs.
Annoncière du Premier ministre Sébastien Lecornu qui va envoyer ce texte dans les prochains jours au Conseil d'État. Romain Houg, c'est un projet de loi préparé en 2 semaines après les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions.
Oui, Sébastien Lecornu veut afficher sa fermeté. Lorsqu'on participe à une violence collective, on doit en assumer individuellement les conséquences, explique-t-il. Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Et vous vous souvenez du fameux « tu casses, tu payes » de Gabriel Attal? Eh bien, c'est justement Gabriel Attal qui sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face et il réagira notamment à cette annonce de Sébastien Lecornu.
Et ce matin, c'est l'épreuve du bac de philosophie. 530 000 élèves de terminale attendus dans une heure. Avec cette année, une attention particulière à la maîtrise de la langue. C'est ce que martèle le ministre de l'Éducation depuis plusieurs semaines. Dans le Loiret, l'usine Duralex se met en pause après l'annonce du redressement judiciaire début juin. La verrerie installée à côté d'Orléans arrête ses fours pour 2 semaines. Le but, protéger la trésorerie et baisser ses charges. Seuls 2 salariés sur 17 resteront pour faire tourner l'usine qui affronte son 5e redressement judiciaire en 20 ans. C'est un chiffre RMC qu'on vous dévoile ce matin. Plus de 500 permis suspendus depuis le 1er janvier pour l'usage du téléphone au volant dans les 7 départements qui ont mis en place la mesure. Le téléphone serait la cause de près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière. On y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis plus qu'un jour avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde. Rendez-vous à 21h demain soir sur RMC pour France-Sénégal. Fabrice Hawkins, la question maintenant, c'est quelle équipe va aligner Didier Deschamps?
Le staff de l'équipe de France doit composer avec un cas particulier pendant cette Coupe du Monde. William Saliba, le défenseur central, a une gêne au dos qu'il traîne depuis 2 mois. Depuis le début de la préparation, le champion d'Angleterre a un programme spécifique. Il ne fait pas tous les exercices avec ses partenaires. Didier Deschamps veut le gérer au mieux pour qu'il puisse être à 100% demain contre le Sénégal. Et sauf problème de dernière minute, il va débuter en défense centrale avec Dayot ou Upamecano. Dans la continuité de ce que les Bleus préparent depuis le début de la saison, Didier Deschamps va aligner 4 offensifs. Le capitaine Kylian Mbappé, évidemment, mais aussi Michael Olise. Et bien sûr, le ballon d'or Ousmane Dembélé. La dernière place devrait revenir à Désiré Doué plutôt qu'à Bradley Barcola. Très performant contre l'Irlande du Nord lundi, Doué a confirmé qu'il pouvait être déterminant dans cette équipe.
Et cette nuit, la Suède a vaincu la Tunisie 5-1. Victoire aussi de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur 1-0. Sans surprise, l'Allemagne a gagné contre le Curaçao 7-1. Les Pays-Bas n'ont pas réussi à venir à bout du Japon de partout. Du rugby aussi, hier, le Stade français a écrasé la Rochelle 45-5 et décroche son ticket pour les demi-finales du top 14. Le Stade affrontera Montpellier samedi prochain.
C'était le journal de Solène Garde.